Et les frères Bogdanov sur Fun Radio.
Voilà, toujours, et on termine. Et attention, il y a ça appel. Hein. Dis donc, vous avez explosé le standard, ça fait plaisir. Au 0803 085000, Igor et Grishka sont encore là pendant 10 minutes, un quart d'heure. On va finir.
T'es fou, pendant 5 heures.
Pendant 5 heures, on va finir en beauté, en musique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler très vite pour essayer de gagner un microseconde. Bon, alors, Fabrice est toujours là. Fabrice, t'es là?
Ça va? Max,
25 ans de Cabourg.
Salut Fabrice.
Fabrice, avant qu'on on parle très vite des trous noirs, en deux mots, on va essayer de faire vite, hein, parce qu'on est un peu speed dans le temps. Grishka était en pleine explication d'une chose très intéressante et Igor a été coupé également. Alors, est-ce qu'on peut redire en deux secondes ce que tu disais
Ce que je disais, c'est que c'est une question de métrique. Dans la métrique de l'espace-temps habituel, on est coincé, en quelque sorte, et on a des contraintes. Si on sort de cette métrique, si on invente une nouvelle métrique, au lieu d'avoir 3 plus et 1 moins, le moins étant le temps, je le rappelle, si on prend 4 plus, eh bien c'est différent. Alors je prends un exemple pour que tout le monde comprenne. Tout le monde va comprendre ce qui se passe. Prenons une feuille de papier. Vous avez tous une feuille de papier en face de vous, Fabrice, ben vous la prenez.
Prends une feuille de papier, Fabrice.
Prends une feuille de papier, Fabrice.
Allez, façon moyenne.
Allez, tu prends une feuille de papier.
Allez,
chacun prend sa feuille.
Chacun, allez, sérieusement, de chez vous, laisse-leur le temps d'aller chercher du papier.
Là, vous êtes chez vous, là. Allez, Igor, la feuille de papier. Moi, je prends la mienne.
Allez, je prends la mienne.
Hop là.
Un papier, un stylo, allez, dessine-moi un mouton.
Maintenant, vous avez chacun votre feuille blanche devant vous. À gauche, vous allez faire un point.
Ah, d'accord, donc on prend un stylo.
Prenez un stylo.
Et dans quel coin?
Allez, un petit point à gauche.
À gauche. En haut à gauche.
Près du bord là. Oui, même près du coin. Le coin de haut à gauche. Un coin en haut à gauche.
D'accord.
Vous allez dessiner une petite croix. C'est un point.
D'accord.
Et vous l'appelez A.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Et puis maintenant, allez à l'autre bout de la diagonale là-bas, de l'autre bout du papier.
D'accord.
Et il y a un autre coin, tout à fait en bas à droite. En bas à droite, il y a un deuxième coin. Et on fait une deuxième croix, tout à fait dans le coin.
Et on l'appelle B.
On l'appelle B.
Ok.
Bah maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez relier A à B,
oui.
Quel est le plus court chemin?
C'est une ligne droite, quoi. Là.
C'est une ligne droite.
Oui.
C'est
vers le point B. Donc
c'est sortir de la feuille.
Fabrice. C'est de A à B.
Attendez, Fabrice, t'as le papier? T'as pris le papier avec toi ou pas?
Ouais, j'ai pris le papier.
Bon, alors en haut à gauche, on rappelle tout dans le coin là-haut. À gauche, on a fait une petite un petit trait, un petit point avec le A, et tout en bas à droite. On a mis le petit point B. Et pour relier ces deux points, quel est
le chemin le plus court?
Pour moi, ça serait la ligne droite, bêtement.
C'est de courber.
Attends. Non, tu prends la feuille de papier, tu ne la touches pas pour l'instant.
Ouais.
Ah, et sans la toucher.
Tu ne la touches pas. Hein. Tu es obligé de dire sur la feuille, sur le plan, c'est un plan, parce que ça, c'est l'espace-temps. Hein. Il faut que tu imagines que cette feuille, elle représente l'espace-temps. Et donc, tu as une ligne qui va relier donc deux points de l'espace-temps. Et cette ligne, c'est nécessairement la ligne droite. T'es d'accord?
Oui.
C'est pas une courbe. Si tu fais le tour de la feuille, évidemment, tu vas avoir une ligne plus longue.
Oui.
D'accord, c'est normal. Donc c'est la ligne droite. Ouais. Ça, si tu voyages dans l'espace-temps, tu vas suivre cette ligne et ça va te prendre un certain temps.
Oui.
Supposons que tu sois un escargot, par exemple, tu mettras un certain temps, tu vas mettre, je sais pas combien, une demi-heure pour traverser la diagonale. D'accord?
Ok.
Bon, maintenant, mon espace-temps, il est construit avec sa métrique, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux rapport entre 3 signes plus et 1 signe moins.
Oui.
Maintenant, supposons que j'ai 4 plus.
Oui.
J'ai changé la métrique. Qu'est-ce que ça veut dire changer la métrique? Eh bien, je vais vous donner l'image de ce que c'est. C'est très simple. C'est exactement comme si vous alliez, comme le disait tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on a eu plein de bonnes idées de ce côté-là, c'est comme si vous alliez prendre la feuille, que vous alliez plier la feuille.
J'allais le dire en plus, plier la feuille.
Plier la feuille et remettre les deux points l'un sur l'autre. D'accord? C'est à ce moment-là que vous avez plié, et donc le point A, maintenant, est devenu pratiquement le point B, c'est-à-dire c'est la même chose, puisque vous avez ramené le point A sur le point B.
Oui.
Vous avez tous compris?
Oui.
Ouais.
C'est simple. Et bien là, ça, ce point A et ce point B confondus, c'est ce qu'on appelle la nouvelle métrique euclidienne à 4+. Voilà. Alors, maintenant, vous allez vous demander, mais tout ça, c'est de la théorie, est-ce que c'est possible ou pas? Je vais vous dire, en fait, que c'est extrêmement difficile, c'est très 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 difficile, mais ce n'est pas complètement impossible. C'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie. Quand vous avez pris votre feuille, c'est plus facile de la laisser au repos, parce que là vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, la feuille elle ne bouge pas. Maintenant, si vous voulez plier la feuille,
il faut appliquer une force.
C'est petit comme force, mais c'est quand même une force que vous allez appliquer, parce que vous allez plier la feuille, donc vous allez faire un petit
injecter
effort.
De l'énergie.
Et finalement, l'énergie, c'est ce qui va changer ce qu'on appelle la géométrie en fait de votre surface. Parce que vous avez une surface plane, elle est plus plane, elle est courbe. À partir du moment où vous appliquez de l'énergie sur votre surface plane, elle se courbe.
À deux dimensions, elle devient une surface à trois dimensions.
Et elle devient une surface à trois dimensions. Enfin, elle devient une surface courbée dans la troisième dimension.
Courbée dans la troisième dimension.
Elle a toujours deux dimensions, d'accord ? C'est toujours deux dimensions, parce que ça devient un cylindre, admettons. Mais ce cylindre, il est courbé, cette surface, elle est courbée dans une troisième dimension. Vous avez donc exploré la troisième dimension.
Qui est la hauteur.
Alors, maintenant, supposons que je fasse la même chose avec l'espace-temps. Supposons que j'applique à un point d'espace-temps de l'énergie, mais beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Eh bien, je vais tout simplement augmenter la courbure de l'espace-temps. Mmh. Ce qui se passe, c'est que tout le monde le sait, parce que la relativité générale nous l'a dit, c'est la grande théorie d'Einstein, l'espace-temps, il n'est pas plat, il est courbé. À chaque fois qu'on a une masse dans l'espace-temps, cette masse courbe autour de lui, courbe cette masse autour de par exemple, un soleil, courbe autour de lui, ce qu'on appelle la ligne de l'espace-temps. Elles sont courbées. Donc l'espace-temps lui-même, globalement, il est courbe, il n'est pas plat. Eh bien, supposons maintenant que l'espace-temps se contracte, par exemple, et que je revienne en arrière en direction du début de l'univers il y a 15 milliards d'années, eh bien, à ce moment-là, la courbure de l'espace-temps sera beaucoup plus grande.
D'accord.
C'est d'accord.
Ok, Fabrice ?
Non, mais c'est d'accord
ouais.
ou pas ?
Ah, oui, ouais.
Attends, je suis de Cabourg, moi.
Bon, c'est assez simple. L'espace-temps, c'est comme une feuille de papier. Si j'applique de l'énergie autour de cette feuille, c'est une masse par exemple. Si je mets, prenons ma feuille de papier, si je mets une bille sur la feuille de papier, elle va s'incurver.
Ouais.
Ben c'est pareil. Quand je mets de l'énergie, c'est une masse, c'est la même chose. Hein. Supposons que je mette dans l'espace-temps à quatre dimensions suffisamment d'énergie, eh bien je vais créer une courbure. Ouais. Lorsque cette courbure devient extrêmement forte et qu'elle atteint ce qu'on appelle la limite de Planck, c'est-à-dire une énergie qui est très élevée, qui est l'énergie de 10 puissance 32 par exemple, degrés Kelvin par exemple.
De vrai Kelvin.
Bon, alors.
attends, tu parles de Kelvin Klein.
À partir de ce moment-là.
On parle là, Kelvin Klein.
Eh bien, à partir de ce moment-là, ça change. En fait, c'est tellement élevé, la courbure est tellement forte que ça change ce qu'on appelle la signature de la métrique, c'est-à-dire ça va changer le moins. En plus.
D'accord.
C'est bon. Tout simplement ça. C'est une question d'énergie.
En parlant d'énergie, justement, il y a l'extrait de Retour vers le futur, encore qui est très intéressant, qu'on a écouté aux antennes avec Igor et Grishka, qui était très intéressant à écouter. Fabrice, ensuite, on parle des trous noirs et après, on joue de la musique. Allez, on écoute l'extrait.
D'abord, là. Il faut mettre en marche les circuits temporels. Ce cadran te dit où tu vas, celui-ci où tu te trouves, et celui-là te dit d'où tu es parti. Ah. Tu programmes l'instant exact où tu veux aller sur ce clavier. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel.
Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super ?
Ni l'un ni l'autre. Il faut un carburant qui ait plus de pêche, du plutonium.
Du plutonium ? Mais vous plaisantez. Vous êtes en train de me dire que ce truc-là est nucléaire.
Non, 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 ce truc-là est électrique. Mais il faut une réaction nucléaire afin de produire les 2,21 gigawatts d'électricité nécessaire.
Voilà, donc là, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Mon petit Fabrice,
ouais.
Pour terminer, ça c'est avec toi qu'on va terminer. Donc les trous noirs, qu'est-ce que tu voulais dire, Igor ?
Bah, les frères Bogdaï, ils ont certainement entendu parler de ça, des trous de verre.
Oui, bien sûr. Ah, oui,
c'est les quoi les trous de verre ?
Voilà, alors il y a une théorie qui prévoirait que si on crée donc un trou de verre...
Mais c'est quoi un trou de verre ?
Alors un trou de verre, c'est en fait, bah, il est prévu que, bon, selon certains, qu'au bout d'un trou noir... Bah. C'est ce qu'ils appellent une fontaine blanche.
Bon, allez, je me fais l'avocat parce que là, c'est quoi le trou noir ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle un trou noir ?
C'est justement un endroit où la gravité est tellement énorme que rien ressort. Tout rentre dedans. Ça absorbe tout.
C'est pas clair pour moi, Fabrice. Excuse-moi. Adresse-toi à quelqu'un qui connaît rien, là.
C'est parce que c'est noir que c'est pas clair. C'est pour,
ouais, c'est pour ça. Mets un peu de lumière. Mets-nous un peu de lumière, Fabrice. Éclaire-nous.
Mais justement, un trou noir, il s'appelle noir parce qu'il n'y a pas de lumière qui en sort.
Oui,
ça absorbe tout dans les environs.
Mais ça existe, ça, réellement, dans l'espace ?
Mais oui, ça existe, bien sûr. Oui.
Ça existe.
Enfin, ça existe. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, on n'a pas encore observé directement des trous noirs.
Que, ouais,
mais on
c'est
a...
ce que j'ai cru lire jamais. Dans le livre que vous m'avez donné.
Non, jamais. Exactement.
C'est vrai, qu'on
bravo
a jamais...
Lecture.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais il lit bien, en
il
plus,
lit bien,
Max.
Il lit bien,
c'est vrai. On parle de trous noirs, mais que, réellement, on n'en a jamais...
Ah oui, en somme, il n'y a pas eu de trous dans ta lecture.
C'est... Ouais. Non,
mais c'est vrai, c'est juste qu'il y a effectivement une théorie très, très florissante, qu'on appelle la théorie des trous noirs, mais qu'on ne les a encore jamais observés.
Directement,
en tout cas. Mais on a des indices indirects qui semblent indiquer qu'ils existent.
Ils existent.
Et d'ailleurs, sur le plan de la théorie, rien ne s'oppose à ce qu'ils existent.
Ça veut dire quoi ? Le temps s'arrête, c'est quoi ?
Non, c'est tout simple. Hein. Prends une étoile. Imagine que cette étoile, elle s'effondre sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle cesse de brûler.
Voilà, elle cesse de brûler, hein? Parce qu'une étoile, c'est un objet qui a une certaine durée de vie, n'est-ce pas ? Notre Soleil, lui, est apparu il y a 5 milliards d'années, et il va durer encore, il est à la moitié de sa vie à peu près, 5 milliards d'années. Mais quand il aura épuisé toutes ses réserves d'hydrogène, et qu'il aura converti cet hydrogène en atomes plus lourds et ainsi de suite, et qu'il sera arrivé au bout des séquences de fusion.
Plus de carburant, ça.
Plus de carburant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Soleil, il s'effondre sur lui-même.
Il se ratatine sur lui-même.
D'accord.
Et alors, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Comme il est de plus en plus dense, eh ben, la densité, en fait, devient telle, à un moment, que l'espace-temps autour de lui commence à se courber. C'est exactement ce qui se passe, comme je disais tout à l'heure, si tu prends une nappe et que tu mets, par exemple, une boule de pétanque sur la nappe, eh bien, ça crée, effectivement, à ce moment-là, un renfoncement dans la nappe. C'est la même chose. Cette masse, elle va créer comme ça une sorte de courbure de l'espace-temps environnant. Et à un moment, la courbure va être telle qu'on va passer en dessous d'un certain horizon, on va tomber dans une singularité. D'accord. Et donc la singularité, au bout, il y a peut-être ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement une fontaine blanche, c'est-à-dire un autre point de l'espace-temps où on ressortirait, effectivement l'extrémité de cette singularité, si on peut dire.
Fabrice, qu'est-ce que je voulais dire donc ?
Voilà, et donc en créant donc ce trou noir avec de l'autre côté la fontaine blanche, et en faisant déplacer cette fontaine blanche à une vitesse proche de la lumière, on pourrait, en rentrant dans le trou noir, puisque la fontaine blanche, comme elle va très vite, le temps passe moins vite pour elle, on pourrait revenir à l'instant de la création ou à peu de choses près du trou noir, en rentrant dans le trou noir et en ressortant par la fontaine blanche, qui va moins vite que le trou noir.
J'ai rien compris. Alors là, c'est mais difficile. J'ai rien compris. Au lieu de nous la faire simple, Fabrice, il nous la fait scientifique. J'ai rien capté. Franchement, j'ai rien compris. Non, mais Igor Grishka, vous pouvez décoder ce qu'a dit Fabrice. J'ai rien compris. J'ai parlé du.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il dit que il y a le trou noir se comporte ici. En fait, ce qu'on appelle le trou de ver, c'est tout simplement comme un tunnel. Hein? Ce tunnel, il est amené à relier deux points de l'espace-temps. Par exemple, nous sommes ici. La première extrémité du tunnel, c'est sur Terre. Et puis de l'autre côté, il y aura un bout du tunnel qui serait, par exemple, à 5 années-lumière d'ici, la plus proche étoile, qui s'appelle Alpha du Centaure. Mmh. Bon, donc c'est un tunnel. Déjà, ce que Fabrice peut dire, c'est que si je rentre ici sur Terre, dans cette extrémité du tunnel, je vais sortir instantanément de l'autre côté à Alpha du Centaure, tout de suite. D'accord, si les deux extrémités sont immobiles, on c'est ce
d'accord.
qui va se passer.
D'accord, ouais.
On est d'accord.
Oui, d'accord.
Ça, c'est instantané puisque c'est un tunnel. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'histoire de la métrique. C'est de l'énergie. C'est-à-dire que la métrique, là, la courbure est tellement forte entre les deux que, effectivement, on a une métrique à 4+, et que donc on va circuler par effet tunnel instantanément d'un point à un autre.
D'accord.
Ouais. C'est clair, hein. C'est,
d'accord, ok.
Bon, ça, c'est facile. Maintenant, ce que Fabrice dit, c'est un peu plus difficile à comprendre, c'est que je peux imaginer que la deuxième extrémité du tunnel, non, elle ne soit plus immobile, mais qu'elle commence à se déplacer. Et si elle se déplace, elle peut aller vite, pourquoi pas à la vitesse de la lumière. Hein? Et si elle se déplace à la vitesse de la lumière, alors à ce moment-là, l'espace-temps autour d'elle va se contracter. Donc, oui. En définitive, on va aller... Alors c'est là où il faut comprendre ce qui se passe, c'est que si l'extrémité à 5 années-lumière d'ici se déplace à la vitesse de la lumière, elle va, en quelque sorte, voyager dans le futur.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, ok.
Donc, par exemple, 1000 ans dans le futur. C'est que si, par exemple, maintenant, j'entre dans le présent ici, en l'an 2000, je vais sortir de l'autre côté à Alpha du Centaure en l'an 3000.
D'accord. Ok.
Voilà. Bon, ça, c'est exactement ce que nous dit la relativité générale. T'es d'accord, Fabrice ?
Ouais.
Hein ? Donc, c'est ce qu'on explore quand on regarde ce type de paradoxe. Maintenant, on peut compliquer les choses. C'est ce que faisait Fabrice tout à l'heure.
C'est bien utile à cette heure-ci.
On a déjà fait une partie du chemin.
Non, c'est vrai.
En comprenant ça, hein, ah ouais. On a créé une machine à voyager dans le temps comme ça.
Ouais. Bon,
c'est d'accord. Maintenant, quand même, Fabrice, il faut que tu saches, avant même de compliquer les choses, c'est que l'inventeur de cette théorie, qui s'appelle Kip Thorne, c'est un physicien théoricien américain, il a montré que, exactement comme dans le cas de Hawking, il y avait des mécanismes de censure cosmique, exactement les mêmes, qui sont des mécanismes, en fait, tout simplement, de transfert d'énergie, qui sont tels qu'on ne peut pas, en définitive, voyager dans le futur en empruntant ces fameux trous de ver.
Ouais.
Donc, de toute évidence, on est coincé, là encore une fois, par les mêmes mécanismes. Mmh. Alors, on ne va pas revenir dans le détail, mais ce qui est certain, c'est que les trous de ver sont très handicapants et que vraisemblablement, on ne pourra jamais les emprunter parce que les ouvrir...
C'est mal.
Les ouvrir, ça fait très mal. C'est une telle dépense d'énergie dans l'espace-temps qu'il faudrait pratiquement une énergie aussi puissante qu'une grande partie de l'énergie de tout l'univers connu pour arriver à percer comme ça, je veux dire, pas à percer, pas simplement à percer, mais à maintenir surtout les trous de verre ouverts. Parce qu'on peut imaginer des trous de verre qui s'ouvrent et en fait qui se referment, mais qui s'ouvrent sur une région très petite, par exemple une singularité, c'est-à-dire un point de l'espace-temps, mais pas une région macroscopique, pas une région très grande de plusieurs mètres, ou plusieurs dizaines de mètres, ou plusieurs centaines de mètres.
Là,
et là, on a un problème.
J'ai lâché un peu là. J'ai pas tout compris.
Non, mais en disant qu'on a un mécanisme, le fameux mécanisme de censure cosmique.
Je sais plus bien si on parlait de la laine de verre ou si on parlait de. Je ne sais plus très bien où on en est, mais c'est pas grave. Bon, Fabrice, merci en tout cas pour ton appel.
Ouais,
on t'a choisi en dernier pour conclure, donc tu nous as bien embrouillé le cerveau.
Pour faire réfléchir cette nuit.
Oui, pour la route.
C'est pour la réflexion nocturne. Ouais.
Très bien, très bien. Merci Fabrice.
Ouais, ciao.
Ciao, bonne bourre.
Salut.
Très intéressant en tout cas ce soir. Donc, on en sait un petit peu plus maintenant sur le voyage dans le temps et de savoir s'il est possible. Dans le temps, dans le futur, on peut se déplacer et non pas voyager.
Mm-hmm. Ouais,
par contre, on ne peut pas aller aujourd'hui. Aller vers le passé.
Non, on ne peut pas aller vers le passé.
Sauf,
on peut regarder vers le passé, comme on disait tout à l'heure, on peut par exemple voir en direction du passé lorsqu'on regarde vers des étoiles de plus en plus lointaines. Alpha du Centaure est à 3,8 années-lumière.
On rappelle qu'une année-lumière,
donc, c'est 300 000 km à la seconde, donc ça fait quelques milliards de kilomètres.
Milliards de kilomètres, hein.
Mais alors donc, si tu veux, ce voyage vers le passé est possible par des images, mais il n'est pas possible physiquement. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit retenir.
Voilà.
En fait, je dirais simplement un mot comme ça pour terminer sur les histoires de métrique, parce que ça, c'est quand même très, très, très passionnant. Lorsque on parle de l'angle de la métrique dans laquelle nous sommes, qui est une métrique euclidienne à 3 plus 1 moins, avec le moins donc, pour le signe du temps.
La métrique lorentzienne.
On peut donc, rappeler ce que De Kreschka a dit tout à l'heure à propos de la métrique euclidienne, qui est une métrique à 4 plus, qui est donc une métrique à l'intérieur duquel, de laquelle le temps ne passe plus. Puisque c'est devenu un signe d'espace. Eh bien, on peut très bien comprendre ce que c'est. Une analogie va nous permettre de comprendre que lorsque le film est sur l'écran, eh bien là, nous sommes dans la métrique à 3 plus 1 moins. Et si nous arrêtons l'image, faisons un arrêt sur image, on voit une scène, eh bien là, nous sommes dans une métrique à 4 plus. Et quelle est la différence entre ces deux métriques? Eh bien, la première, la métrique dans laquelle nous sommes, est associée à une certaine dynamique. C'est pour ça que nous évoluons, au fond, c'est pour ça que nous nous déplaçons dans le temps, alors que l'autre n'est plus dynamique, elle est statique.
C'est figé.
Elle est figée, il n'y a plus de durée du tout.
D'accord, ok.
Tu vois? Et en fait, cette métrique existe, et nous en faisons l'expérience sans le savoir à chaque instant. C'est-à-dire que l'univers est constitué de deux métriques et pas d'une métrique, et c'est là justement toute la beauté des découvertes de ces dernières années. C'est que, alors que nous avions cru jusqu'à présent vivre dans une seule métrique, la grande nouvelle que nous allons donner ce soir à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos amis de Fun Radio, la grande information de ce soir, c'est qu'il n'y a pas une seule métrique,
mais deux.
Tu vois ?
D'accord.
Et qu'en fait, il y a une métrique à l'intérieur, et qui sont emboîtées l'une dans l'autre. Il faut imaginer deux cônes qui sont reliés par le sommet, comme ça, par la singularité. Deux cônes, prends deux cornets de glace, tu les renverses, tu les mets en contact par leur sommet, et à ce moment-là, tu as une description de ce que pourrait être l'emboîtement de ces deux métriques. D'un côté, la métrique lorentzienne avec du temps, et de l'autre côté, opposée à elle, duale de la métrique lorentzienne, la métrique euclidienne sans temps. Tu vois, et tout ça forme une espèce d'ensemble de totalité, et on peut expérimenter et prouver l'existence d'une métrique 100 ans, qui agit à chaque instant sur la métrique avec temps. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais il faut dire que des expériences toutes simples nous montrent, par exemple l'accélération, l'inertie que nous expérimentons tous lorsque l'on freine ou on accélère en voiture, eh bien l'inertie n'existerait pas si la métrique était uniquement lorentzienne. Elle existe parce que elle trouve son origine dans une métrique euclidienne. Autrement dit, Cette expérience toute simple qui consiste à accélérer ou desserrer en voiture et donc de montrer qu'il y a de l'inertie dans le tous les jours de notre existence, eh bien, cette expérience trouve son origine dans l'origine elle-même de l'univers. C'est-à-dire que quelque chose se passe entre ce que nous expérimentons ici et maintenant et une origine qui a eu lieu il y a 15 milliards d'années, qui se confond avec l'origine de l'univers. Tout ça forme une espèce de totalité. Je ne sais pas si tu as tout à fait compris, Max, mais nous sommes contemporains, d'une certaine manière, des tout premiers moments de l'univers.
PSG a gagné ce soir 7-2. Quoi ? PSG ce soir a gagné 7-2. C'est tout ce que tu ressens dans la soirée, je crois. Voilà. Bande de caves. J'ai tout à fait compris, Gorilla.
Évidemment que t'as compris.
Évidemment. On se fait un peu de son. Allez, on sort l'harmonica, le banjo maintenant.